Les cinéphiles, Aileen.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans les cinéphiles. On va parler d'hommes exceptionnels ce soir et on va également se rafraîchir. En effet, nous sommes allés voir la fiction documentaire Une année polaire de Samuel Collardet cette semaine. On vous expliquera quelque peu les coulisses du film avant de vous livrer notre critique sur ce long métrage qui raconte l'immersion d'un jeune instituteur danois au Groenland. Et un autre homme exceptionnel, plus ou moins, ou en tout cas surprenant, sera à l'honneur dans Bande originale, puisqu'on racontera en musique l'histoire du masque, le mythique homme vert campé par Jim Carrey dans les années 90. Et on poursuivra évidemment en évoquant les sorties de la semaine, c'est avec Raphaël Chevalet, un de nos journalistes cinéma. Et on aura aussi l'occasion de jouer ensemble pour vous faire gagner des entrées de cinéma pour la séance de votre choix. Et dans les cinéphiles, on ne fait pas les difficiles, hein, comme à Cannes. Du coup, pas besoin de talons ou de smoking pour fouler notre tapis rouge jusqu'à 19h.
Les cinéphiles, Aileen. Les cinéphiles.
Avant de vous livrer la critique du film Une année polaire et afin que vous puissiez bien comprendre ce dont traite le film, je vous propose de découvrir quelques secrets de tournage. Tout comme le personnage principal, Anders, un jeune professeur qui débarque dans le petit village de Tinitekilak, les réalisateurs ont eu de la peine à entrer en contact avec les habitants. Le réalisateur, Samuel Collardet, l'a d'ailleurs affirmé dans une interview. Nous avons d'abord eu du mal à rentrer en contact avec les gens. Ce n'est qu'à la fin du voyage que nous avons rencontré Julius, qui, dans le film, est l'employé municipal chargé d'accueillir Anders. Au deuxième voyage, nous avons passé 3 semaines ensemble en visitant les autres villages de la zone. Mais nous avons choisi de tourner le film à Tinitekilak et nous y sommes retournés à 2 reprises pour essayer de comprendre le pays et ses habitants, d'y trouver une histoire en prise avec le réel. Le lieu était donc choisi avant l'histoire, mais l'intrigue leur a été livrée sur un plateau d'argent par l'ancienne institutrice du village en personne, qui a annoncé au cinéaste son départ, mais surtout la venue d'un nouvel instituteur. Là, ça devenait plus intéressant. L'étranger qui arrive dans la ville doit trouver sa place, se confronter à une autre culture. Un dispositif classique, mais efficace. Nous avons discuté avec les gens du rectorat danois qui nous disaient qu'envoyer un jeune, c'était prendre le risque qu'il reparte très vite parce que le boulot est dur. Ils envoient plutôt des gens proches de la retraite. Et puis, le recteur m'a montré la photo d'Anders qui lui paraissait solide. Le plus bizarre dans ce dispositif, c'est qu'au fond, je ne connaissais pas celui qui allait être le personnage principal de mon film, a affirmé le réalisateur Samuel Collardet. C'est dans cette atmosphère-là que le film a été tourné. C'était une découverte autant pour le professeur que pour les créateurs d'Une année polaire, dont on parlera encore tout à l'heure dans la critique.
Les cinéphiles, la critique.
Une année polaire, une fiction documentaire réalisée par le cinéaste français Samuel Collardet. Le film commence au Danemark avec Anders, un jeune enseignant qui désire partir à l'aventure. Il n'a pas de copine, pas d'enfant, pas de travail, bref, pas d'attache. Il demande un poste d'instituteur au Groenland. Il choisit le village de Tinitekilak, une réserve inuite de seulement 80 habitants pour un dépaysement complet. Mais on le prévient avant même de partir. Les Groenlandais sont plutôt froids avec les Danois. Dès son arrivée, Anders est mal vu par les villageois. Ceux-ci ne l'intègrent pas dans les activités de la communauté et en plus, ils ne se donnent pas la peine de parler danois avec lui, préférant le groenlandais. Même les enfants n'en font qu'à leur tête et communiquent entre eux dans cette langue incompréhensible pour lui. Anders a donc du mal à s'acclimater aux us et coutumes des habitants et ces derniers le prennent juste pour un danois de plus qui veut montrer sa supériorité. Le jeune prof comprend alors qu'il doit ouvrir son esprit et entrevoit un monde bien différent que celui qu'on lui a décrit jusqu'à présent. Le film est un mélange entre fiction et réalité. Anders a réellement tout plaqué pour devenir prof au Groenland. Certaines scènes sont scénarisées, mais d'autres sont vraiment capturées sur le vif, ce qui rend ce film bien vivant. Malheureusement, je pense qu'il manque quand même un fil rouge. On saute parfois plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et on retrouve tout d'un coup Anders proche d'un élève qui pourtant lui menait la vie dure quelques secondes auparavant. L'évolution n'est malheureusement pas très linéaire, il manque quelques éléments pour qu'on puisse comprendre comment ce jeune maître d'école a réussi à se faire une place dans ce village. Toutefois, j'ai beaucoup aimé découvrir cette région reculée à travers cette histoire vraie. Et les clivages aussi qui règnent entre Danois et Groenlandais sont très bien représentés dans cette petite communauté. Pour l'authenticité et la découverte, je donne à ce film, Une année polaire, la note de 7 sur 10.
Les cinéphiles, jusqu'à 19h.
Et je crois que ce soir, on n'aurait pas pu choisir un film plus culte de 1994 que celui dont on va parler tout de suite.
Les cinéphiles, bande originale.
Si on veut un bon aperçu de ce qu'était le cinéma, la musique et l'humour des années 90, il faut absolument revoir The Mask avec Jim Carrey et Cameron Diaz. Souvenez-vous, le film débute à Edge City, une ville fictive, grisâtre et composée de gratte-ciel. Des explorateurs plongent dans une rivière sale et découvrent une malle qui contient un masque mystérieux, très ancien et sans intérêt pour eux. Les plongeurs le laissent donc dériver jusqu'à ce que Stanley Ipkiss, alias Jim Carrey, timide banquier amoureux de la splendide chanteuse Tina, jouée par Cameron Diaz, le trouve, le ramène chez lui et l'essaye. Alors que résonnent les notes quasi terrifiantes de The Transformation, l'une des compositions originales de Randy Edelman, qui signe cette BO aussi haute en couleur que le personnage principal est récompensé par un BMI Film Music Award. Stanley tourne sur lui-même à une vitesse hallucinante dans son appartement miteux et le voilà avec un visage vert, une grande bouche et des vêtements excentriques.
Splendid!
Durant sa première nuit en tant que le masque, Stanley défonce le parquet de son immeuble, attaque des loubars et se venge de son garagiste qui s'est moqué de lui. La seconde nuit, il braque la banque dans laquelle il travaille.
Quand on veut être chic, il faut avoir du fric. Je m'arrête à la banque.
Le masque arrive ensuite au Coco Bongo dans une immense limousine.
Vous êtes sur la liste ?
Non. Cependant, mes amis doivent y être. Vous les connaissez, on les voit partout. Benjamin Franklin, Ulysse Grant et Andrew Jackson.
Il s'installe à une table et voit Tina chanter. Sa langue pend, ses yeux sortent des orbites et il commence à hurler comme le loup de Tex Avery. Il ne se contente pas de la regarder puisqu'il la rejoint pour une danse endiablée sur Hey Pachuco de Royal Crown Review. Il la fait tourner dans tous les sens et finit sa chorégraphie par un baiser fiévreux. Dorian Tyrell, le patron de la boîte, interrompt la fête et menace le masque.
Allons-y, Fred Astaire. Je te donne 3 secondes pour me dire où t'as planqué mon argent.
Ok.
J'en ai placé 17,5% en bons du trésor à un an et en SICAV, plus 8% en actions. Je pose 2 et je retiens 9, moins l'âge du capitaine. Mais vous avez beaucoup de chance, les fleurs et les couronnes sont déductibles.
Arrose-moi cet abruti!
Après avoir évité les balles des hommes de main de Tyrell et filé entre les pattes du lieutenant Kellaway, le masque se retrouve en face d'une armada de flics armés. C'est à ce moment que démarre une des plus mythiques scènes du film sur Cuban Pete de C+C Music Factory, interprétée par Jim Carrey lui-même dans la version originale.
Je suis Sancho de Cuba, j'ai la Sancho pour la rumba. Un joie des maracas se fait tchik 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 et boum tchik tchik et boum. C'est moi Sancho de Cuba, la coqueluche de tous les voisins. Et puis quand je danse, tout redevient tchik tchik et boum tchik tchik et boum.
Comme par enchantement, les policiers se mettent à danser et ne peuvent plus contrôler leur corps. Ils le suivent dans une folle chorégraphie et le laissent ainsi s'enfuir, toujours poursuivi par le lieutenant Kellaway. Dans la dernière scène, Stanley est réuni avec Tina et décide d'abandonner ce masque qui lui a permis de révéler sa vraie personnalité, mais aussi causer pas mal de tort. Il le jette à nouveau dans la rivière où il l'a trouvé et embrasse Tina. Arrive ensuite le générique de fin avec Who's That Man, comprenez, mais qui est cet homme ? Une chanson qui correspond plutôt bien au film et interprétée par Xscape. Who's That Man, un morceau de Xscape qui clôt donc le film culte The Mask avec Jim Carrey et Cameron Diaz. On va continuer à parler de films, mais cette fois-ci des films qui vont sortir cette semaine dans la région.
Les cinéphiles, les sorties.
Pour parler avec nous des sorties de la semaine et des événements cinématographiques, on accueille parmi nous Raphaël Chevalet, co-responsable de Passion Cinéma, également journaliste cinéma. Bonsoir Raphaël.
Bonsoir Aileen.
Et on commence avec un gros blockbuster puisque les dinosaures sont relâchés.
Jurassic World Fallen Kingdom. Eh bien, depuis que Steven Spielberg a commencé en 1993 avec les premiers diplodocus en images de synthèse pour Jurassic Park, eh bien, on en voit de plus en plus, enfin, à répétition, disons, de ces bestioles d'il y a 65 millions d'années. Donc, après Jurassic World, qui était sorti en 2015, on retourne sur l'île des dinosaures. Et cette fois, c'est un volcan qui commence à rugir et à rougir. Et quelques paléontologues amateurs, dont un couple, vont s'organiser pour aller et sauver les dinosaures de l'extinction. Donc c'est évidemment un film avec des effets spéciaux tout à fait réussis, avec un réalisme qui est quand même accentué par la 3D, donc qui peut être assez impressionnant pour les plus jeunes, hein, c'est quand même des 12 ans. Et puis un peu d'hémoglobine aussi, c'est un divertissement pour les amateurs de trains fantômes, avec un peu d'humour. Et puis, il y a aussi beaucoup de références aux autres films de la série, c'est assez ludique du coup.
Donc les fans de la première heure vont apprécier. Voilà. Ça, c'est chouette. On poursuit avec le Book Club, ou alors quand des dames d'un certain âge découvrent 50 nuances degrés.
Oui, alors là, on change de registre. Hein. Donc, c'est une comédie romantique avec des dames d'un certain âge, mais qui sont très bien conservées.
Hein. C'est Hollywood.
Elles sont interprétées notamment par Diane Keaton et Jane Fonda. Et puis, chaque semaine, ces quatre amies se retrouvent dans leur club de lecture et un jour, elles décident de lire quoi ? 50 nuances degrés. Alors, évidemment, ça va les pousser à aller chercher de nouvelles expériences avec des autres hommes, des vieux beaux. Donc c'est un peu dans un feel good movie dans la veine avec des personnes âgées comme le film british là, Indian Palace, un peu plus à l'américaine. Voyez le genre.
Je vois le genre. On passe à un tout autre registre, un film italien qui parle de la Seconde Guerre mondiale, la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Oui, una questione privata des frères Taviani. Une question privée, littéralement, en français. Ces frères Taviani, donc, ils ont commencé, c'est des grands hein, cinéastes, ils ont commencé dans les années 60 à faire des films caractérisés par un style assez lyrique et romanesque qui mélange souvent le rêve et la réalité. Ils avaient notamment eu une Palme d'Or à Cannes en 77 avec Padre Padrone, qui est un film très connu. Et en 82, ils avaient fait le film qui s'appelle La Notte di San Lorenzo, où ils avaient abordé la résistance au fascisme durant la Deuxième Guerre mondiale, dans les années 40. Et c'est ce même sujet qu'ils ont choisi de reprendre au vu de la situation politique italienne actuelle. Et donc, dans ce film, qui a été aussi entaché par la mort d'un des frères Taviani, Vittorio, qui a eu un accident durant le tournage et puis ensuite qui est décédé d'une longue maladie en avril dernier. Donc dans ce film qui se déroule en 1943 dans le Piémont, au nord d'Italie, il y a la guerre civile qui fait rage et un jeune homme va revoir une femme très séduisante dont il était tombé amoureux et il apprend qu'elle est avec un autre qui était son ami, un autre résistant. Et alors il y a un triangle amoureux avec une jalousie, une obsession amoureuse qui se crée comme ça. Et à travers cette histoire d'amour finalement, les cinéastes dénoncent en fait la disparition des idéaux, l'iniquité des totalitarismes, l'horreur de la guerre, évidemment. Il y a quelques scènes très chocs par rapport à ça, mais c'est vraiment du tout grand cinéma.
On part dans un registre aussi assez, exotique. On n'a pas l'habitude peut-être de voir des drames brésiliens sur nos écrans, et ben on aura l'occasion cette semaine.
Oui, il y en a quelques-uns de temps à autre de films brésiliens qui sortent sur nos écrans. Je crois que le précédent de Laís Bodansky était aussi sorti chez nous. C'est une réalisatrice brésilienne qui, dans ce film, donc Comme nos parents, raconte l'histoire d'une rédactrice. Elle est maman aussi de deux jeunes filles. Elle s'appelle Rosa. Et elle apprend un jour, de la part de sa mère, que l'homme qu'elle considère comme son père, en fait, depuis 38 ans, en fait, n'est pas son vrai père, son géniteur. Donc c'est un film qui parle de filiation, d'hérédité, de quête des origines, d'identité, et qui, à travers cette histoire, c'est un pitch qu'on peut avoir déjà dans d'autres films, aborde surtout, fait un peu la critique du rôle que la société impose aux femmes. Donc c'est un portrait de femmes subtil, émouvant, de femmes d'aujourd'hui, vraiment.
De aujourd'hui, on passe à hier, en tout cas 50 ans en arrière, puisqu'on continue sur la lancée du cinquantenaire de mai 68.
Oui, il y a toute une série d'événements autour de mai 68 cette année. Un petit air de mai 68, ce sera le vendredi 8 juin à 18h30. Entrée libre, c'est un ciné-concert avec des extraits de films et une musique spécialement composée et interprétée par Sholeh Hoffman et Momo Rossel, qui remonte le fil de cette époque qui a vraiment été très florissante au niveau de la créativité, non seulement du cinéma, mais aussi de la musique. Ça risque d'être tout à fait intéressant, et on peut y aller avec une chemise à fleurs ou en bleu de travail, comme on veut.
Comme on veut. On a également un autre événement à communiquer pour cette semaine. C'est un documentaire sur la venue des réfugiés en Suisse, et plus précisément en Argovie, qui a intéressé Sabine Giesiger.
Oui, cinéaste zurichoise. Donc ce film s'appelle Willkommen in der Schweiz, bienvenue en Suisse. Et dans ce documentaire, la cinéaste prend comme point de départ et comme point de vue une petite commune d'Argovie, au moment, donc c'est en été 2015, où la Suisse a vu arriver à peu près 40 000 migrants. Et donc c'est la crise des migrants et les réactions qu'elle a provoquées chez nous, à petite échelle, dans ce petit village, avec un regard assez acéré sur cette situation. Et puis la réalisatrice sera présente samedi 9 juin à Neuchâtel pour dialoguer avec le public à la suite de cette projection.
Merci beaucoup Raphaël de nous avoir présenté ces films qui vont sortir cette semaine et les événements qui sont également liés au cinéma. Je vous dis à bientôt.
À bientôt, Aline, merci.
Les cinéphiles.
Et pour nous, il est bientôt l'heure de se quitter, mais comme à notre habitude, on vous fait gagner avant cela deux entrées à faire valoir dans n'importe quel cinéma, Cinépel, Cinémon ou Cinévital. Pour cela, rien de plus simple, vous devinez quel film se cache derrière un extrait qu'on va vous diffuser. Vous nous appelez au 0901 70 20 20, vous espérez être sélectionné, et le tour est joué. Vous êtes prêts? Je vous rappelle le numéro 0901 70 20 20, si vous devinez de quel film est tiré cet extrait.
Tu m'as dit un jour qu'on aurait peut-être le même âge le jour où tu reviendrais. Et aujourd'hui, j'ai l'âge que tu avais quand t'es parti. Alors le moment serait bien choisi pour que tu reviennes.
0901 70 20 20, si vous avez trouvé de quel film il s'agit, de quel film on parle justement dans cet extrait. C'est un film, moi je sais pas pour vous, mais à ce moment-là, il m'a fait lâcher 2-3 larmes. Un film qui dure carrément 3 heures, qui est sorti il y a quelques années, il n'est pas si vieux que ça. Et apparemment, il n'y a personne qui a trouvé du premier coup. Donc moi, ce que je vous propose, c'est que tout d'abord, je vous redonne le numéro de téléphone. Eh ben non, j'ai parlé trop vite. Il y a des gens qui ont trouvé, des gens appellent gentiment, alors on va déjà voir si la première personne qu'on a parmi nous a trouvé de quel film il s'agissait. Bonsoir, qui est avec nous?
Oui, bonsoir, c'est Yves de Perfit.
Bonsoir Yves, apparemment vous avez trouvé quel film se cachait derrière l'extrait qu'on vous a diffusé il y a quelques secondes.
Oui, alors je suis pas sûr, mais d'après moi c'est L'étrange histoire de Benjamin Button.
Ah, malheureusement c'est une fausse réponse Yves.
J'espère... Ah non.
Voilà. Ah non, bah oui, malheureusement, mais c'est pas grave, vous pouvez rejouer une autre fois, vous tentez encore une fois votre chance, parce que je suis sûre qu'une fois vous allez tomber sur un film que vous connaissez, ça vous dit?
Ok, ça marche.
Merci beaucoup. Merci. Yves, et peut-être à bientôt. Peut-être que quelqu'un d'entre vous a donc trouvé de quel film il s'agissait. Je vous propose de vite réécouter une fois l'extrait 0901 70 20 20 si vous avez trouvé de quel film il s'agit.
Tu m'as dit un jour qu'on aurait peut-être le même âge le jour où tu reviendrais. Et aujourd'hui, j'ai l'âge que tu avais quand t'es parti. Alors le moment serait bien choisi pour que tu reviennes.
Je comprends pourquoi on a pu penser que c'était L'étrange histoire de Benjamin Button. C'est vrai que je n'y avais pas du tout pensé en écoutant l'extrait, mais là, maintenant qu'on me l'a dit, je comprends tout à fait. Par contre, ce n'est pas ce film-là, là, c'en est un autre. 0901 70 20 20, si vous pensez avoir la réponse. Bonsoir, qui est avec nous ?
Bonsoir, Joël.
Bonsoir, Joël. Apparemment, vous avez une idée de quel film il pourrait s'agir, justement, cet extrait.
Interstellar,
exactement. Bah, c'est la bonne réponse.
Ah, Joël. J'étais dans la voiture, je vous entendais, puis je me disais, putain, c'est déjà quoi le nom, c'est déjà quoi le nom. Je ne trouvais plus le nom du film dans ma tête. Mais je voyais exactement l'extrait, alors voilà.
C'était un film que vous aviez apprécié, vous l'aviez vu au cinéma, Joël?
Oui, oui. Non, je l'ai vu en DVD, mais ouais, j'ai trouvé ça... Ouais, il était vraiment, vraiment chouette. Je l'ai vu trois fois, donc voilà. Mais...
Donc ouais, vous avez, ouais, ça vous a quand même dit quelque chose au bout d'un moment.
Oui, non, mais tout de suite. Je suis tout de suite, mais je savais plus le nom. Je trouvais plus le nom.
C'était juste le nom qui vous manquait. Ben voilà, vous avez essayé et vous avez bien fait d'essayer, car c'était exactement ça. Joël, je vous invite juste à rester avec nous hors antenne pour que je puisse prendre vos coordonnées d'ici quelques petites secondes.
Merci beaucoup.
Et je vous souhaite une bonne soirée. Je souhaite également une bonne soirée à tous les auditeurs qui nous ont suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission consacrée au cinéma. Ce sera dès 18h20, lundi, ici même.
Les cinéphiles.